Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi
Soit-il.
soit-il. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez mon appel. Mes très chers frères, dans 2 semaines, ce sera la fin du monde. C'est-à-dire que la fin de l'année liturgique arrivera dans 2 semaines. Dieu seul sait quand sera la fin du monde dans lequel nous vivons, mais nous savons que l'année liturgique se termine dans 2 semaines. Il se trouve donc, mes très chers frères, que l'Église, en ce jour, en ce 23e dimanche après la Pentecôte, l'Église augmente sa sollicitude pour ses enfants, sachant qu'il nous reste peu de temps pour faire pénitence. Quand, quel que soit le temps qu'il nous reste à vivre, mes très chers frères, à chacun de nous dans notre vie, nous savons que c'est un temps suffisant pour changer de voie et s'appliquer à la grande affaire de notre salut. Nous avons donc plusieurs choses à voir dans ce 23e dimanche après la Pentecôte, 23e dimanche qui est très encourageant et par lequel l'Église nous fournit toute une doctrine pour que nous puissions aller de l'avant et mettre à profit le temps qui nous reste. Nous verrons tout d'abord, avec l'aide du Saint-Esprit, comment l'Église prie et nous apprend à prier. Toujours ces prières de l'Église qui sont nos prières et par lesquelles nous devons prier. Donc comment l'Église prie et comment elle nous apprend à prier, elle nous montrera qu'il est encore temps de faire pénitence. Deuxièmement, notre deuxième point sera de voir comment le miracle de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans nous enseigne sur l'attitude qui correspond à la prière que l'Église nous fait prier, nous apprend à prier aujourd'hui. Nous allons voir dans l'Évangile une illustration de la prière de l'Église de ce jour. Nous verrons, nous apprendrons comment nous devons nous approcher de Dieu. Et nous terminerons par notre troisième point en voyant pourquoi nous devons pleurer nos péchés et les avantages du fait de pleurer ses péchés. Et nous verrons donc par la même occasion comment le chrétien doit vivre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutons ce que l'Église nous a fait prier tout à l'heure dans l'oraison collecte de ce jour, 23e dimanche après la Pentecôte. Pardonnez, Seigneur, les fautes de vos peuples. Délivrez-nous par votre bonté des liens du péché que nous avons commis par humaine fragilité, par Jésus-Christ, etc. Vous remarquez, mes très chers frères, le ton de cette oraison. C'est une oraison qui est extrêmement calme, si j'ose dire, extrêmement douce. Ce n'est pas un ton qui nous est adressé à nous, puisque c'est les prières que nous faisons monter en ce jour vers notre Dieu. Si j'osais faire un tout petit peu de psychologie ecclésiale, si j'ose dire, nous voyons que nous avons tant de choses, l'Église a tant de choses à nous faire demander à Dieu, qu'elle nous apprend à lui parler avec un ton extrêmement doux, extrêmement humble, et nous allons voir extrêmement ferme aussi. Pardonnez, Seigneur, les fautes de votre peuple, délivrez-nous par votre bonté des liens du péché que nous avons commis par humaine fragilité. Nous allons voir que ce que nous lui demandons de nous pardonner est tellement énorme qu'il faut lui demander avec une très grande douceur, en même temps qu'une très grande foi, une très grande fermeté. Il y a plusieurs choses que nous avons à remarquer ici. Tout d'abord, l'Église, s'adressant à Dieu, elle prend une voix qui est une voix suppliante pour ses enfants. Elle sollicite la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'elle nous fait dire « Pardonnez, Seigneur, les fautes de votre peuple ». Alors, littéralement, « Delicta tuorum populorum », la faute de vos peuples. L'Église, considérée dans ses diverses parties, il y a l'Église en général, qui est le corps mystique du Christ, qui est composé de toutes les églises. C'est pour cela que les apôtres parlent dans l'Écriture, dans les épîtres, de la sollicitude qu'ils ont pour les églises. Toutes ces églises forment l'Église. Le peuple de Dieu est composé d'une multitude de peuples, et tous ces peuples, eh bien, l'Église, c'est pour eux qu'elle prie aujourd'hui, parce qu'ils sont pécheurs. Pardonnez, Seigneur, les fautes de vos peuples. Absolvez quae sumus domine tuorum delicta populorum. Absolvez les fautes, les délits, les péchés de vos peuples. L'Église sollicite la miséricorde de Dieu. Mais Comment sollicite-t-elle la miséricorde de Dieu? Vous allez dire, ce n'est pas nouveau, elle sollicite dans toutes ses oraisons la miséricorde de Dieu, et vous avez raison de le dire, la seule chose, il faut le dire avec, de la bonne façon, avec le ton de l'Église, si j'ose dire. Pardonnez Seigneur les fautes de votre peuple. Comment est-ce que l'Église, arrivée en ce 23e dimanche après la Pentecôte, nous voyant encore extrêmement pécheurs, et non seulement pécheurs, mais empêtrés, si j'ose dire, dans les liens, nous allons voir, c'est la deuxième partie de l'oraison, empêtrés dans les liens que nos péchés récurrents, nos péchés récurrents nous ont entravés, comment l'Église s'y prend-elle pour nous demander à Dieu sa miséricorde alors qu'il ne reste plus que deux dimanches? Eh bien, mes très chers frères, elle s'y prend d'une façon que, si nous la comprenons bien, nous arriverons toujours à gagner la miséricorde de Dieu, quels que soient nos péchés. Nous le disons, alors vous allez dire, est-ce que ce n'est pas un peu téméraire de s'exprimer ainsi? Non, il ne s'agit pas de dire péchons, péchons, de toute façon nous avons la solution. Non, de toute façon c'est un fait. Nous sommes pécheurs, nous sommes embarrassés dans les liens, les multiples liens, que les péchés d'habitude ont tissé autour de nous. Il se trouve donc que, puisque c'est un fait, puisque nous sommes pécheurs, tout homme est pécheur, dit l'Écriture, puisque nous sommes pécheurs, comment obtenir, alors que la fin arrive bientôt et que le jugement arrive bientôt, comment obtenir la miséricorde divine? Vous voyez, mes très chers frères, avant de donner la solution et avant de vous faire voir comment l'Église nous apprend à prier, nous donne la certitude que nous pouvons être en tout temps bénéficiaires de la miséricorde divine, il faut que nous comprenions que nous avons deux choses à considérer. Premièrement, le temps qui passe et la fin qui se rapproche. Et deuxièmement, la nécessité que nous avons de demander à Dieu sa miséricorde. S'il nous semble que nous avons encore plein de temps et que de toute façon nous avons déjà fait pas mal et que nos bonnes œuvres sont derrière nous et que nous n'avons rien à craindre, alors évidemment nous n'avons pas besoin de prier cette prière, mais ça veut dire que nous nous excluons du peuple de Dieu, puisque c'est le peuple de Dieu arrivé au 23e dimanche après la Pentecôte, prie cette prière. Donc s'il prie cette prière, c'est qu'il en a besoin. Si on estime qu'on n'a pas besoin de cette prière, ce n'est pas que nous sommes des super chrétiens qui sommes sortis du lot, c'est que nous ne sommes pas chrétiens du tout. Nous avons donc besoin, d'une part, de considérer que le temps presse, et deuxièmement, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Ne soyons jamais de ceux, mes très chers frères, qui s'imaginent qu'ils n'ont pas tellement besoin de la miséricorde de Dieu, et comme nous le verrons, qui, s'ils la demandent pour les autres, s'imaginent n'en avoir pas besoin eux-mêmes. Donc vous voyez, nous devons avoir conscience du temps qui passe, et conscience aussi que nous avons absolument besoin de la miséricorde divine. Le fait que nous ayons besoin de la miséricorde divine, nous le verrons par la suite, chasse le désespoir, dans le sens où le désespoir fait que nous, en quelque sorte, nous renonçons à la miséricorde divine. Gardons l'attitude chrétienne qui consiste à savoir que, même si nous arrivons à la fin de notre vie, même si nous arrivons à la fin du monde, à la fin de l'année, et que nous n'avons pas fait grand-chose, nous avons besoin de la miséricorde divine. C'est une nécessité. Et d'une certaine manière, c'est une nécessité qui correspond aux bonnes dispositions de Dieu pour ses enfants. Certes, à l'heure qu'il est, au 23e dimanche après la Pentecôte, nous devrions être quasiment des saints. Mais il se trouve que nous avons perdu notre temps, il se trouve que nous avons fait absolument n'importe quoi, il se trouve que nous avons dilapidé la grâce qui nous a été donnée. L'Église aujourd'hui nous apprend à prier comme si nous prions pour la première fois, et elle nous apprend à demander ce dont nous avons besoin. Et nous avons vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Nous n'avons donc pas tant à regarder ce que nous avons fait pour être dans cette situation que d'être persuadés que nous sommes dans une situation où nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Ce sont des choses qui semblent aller de soi. En réalité, il faut bien s'en imprégner de peur de ne pas être dans la perspective qui est la seule qui nous rende susceptibles d'être pardonnés et d'obtenir la miséricorde. Alors, comment l'Église sollicite-t-elle la miséricorde de Dieu? Eh bien, mes très chers frères, c'est très simple. L'Église souligne les péchés des chrétiens et non pas leur mérite. Arrivé au 23e dimanche après la Pentecôte, si on fait, disons, certaines statistiques dans le peuple chrétien, on peut se dire qu'il y en a au moins quelques-uns qui ont mis à profit la grâce, et que l'Église peut en quelque sorte faire venir devant le Seigneur, de telle sorte qu'il puisse en quelque sorte intercéder pour les autres. Sous un certain rapport, c'est vrai, c'est pour ça que la semaine dernière, nous avons fêté tous les saints, afin qu'ils intercèdent pour nous, Mais enfin, nous parlons ici des saints qui ont besoin de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de nous qui vivons ici-bas. L'Église triomphante est au ciel, mais nous faisons encore partie de cette Église combattante, cette Église militante, qui a besoin de la miséricorde de Dieu parce qu'elle est dans une situation où elle peut être encore, chacun de ses membres en tout cas, peut être encore embarrassé dans les liens du péché. Donc, que fait l'Église? Elle ne fait pas comme on fait dans les écoles, à juste titre sous un autre rapport, c'est-à-dire que quand il y a un personnage important qui vient visiter, eh bien on prend les meilleurs élèves, on met les élèves médiocres dans le fond, on met les meilleurs élèves, et de telle sorte qu'on fasse bonne impression. L'Église n'agit pas ainsi parce que l'Église agit surnaturellement. C'est-à-dire que l'Église ne va pas dire à Dieu, regardez, nous arrivons à la fin de l'année, regardez combien au moins certains de mes enfants ont fait bon usage de vos grâces. Non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Seigneur, encore une fois, nous avons besoin de votre miséricorde parce que personne ne la mérite. Et ceci est souligné dans la prière que nous dirons à la fin de la messe, qui est la prière vers la fin de la messe, disons, ou pendant le canon, disons, qui est avant le canon, qui est la prière secrète, un peu avant le canon. Nous vous offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange pour que votre bonté daigne continuer en nous l'œuvre que, sans mérite de notre part, vous y avez commencé. On pourrait se dire humainement, arrivé vers la fin de l'année, on pourrait essayer de présenter à Dieu un bon bilan. Bienheureux celui qui peut présenter, ou plutôt qui plaît à Dieu arrivé à cette fin d'année, et parce qu'il a mis à profit la grâce. Mais quand bien même il aurait mis à profit la grâce, il devait prier cette prière. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes dans cette vie, ici-bas, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, car nous ne savons pas si nous persévérerons jusqu'à la fin. Le meilleur d'entre nous devrait prier très humblement pour obtenir la grâce de la persévérance finale, et les pires d'entre nous devraient prier la même prière, avec la même véhémence et la même foi, parce que nous sommes tous plus ou moins au même point. Donc vous voyez, l'Église ne met pas devant le Seigneur les mérites que certains d'entre nous ont acquis. Elle met devant le Seigneur le fait que, arrivé au 23e dimanche après la Pentecôte, nous n'avons encore pas fait grand-chose. Nous venons tout juste d'entrer dans la vigne du Seigneur, nous qui avons fainéanté toute la journée sur la place publique. Nous venons tout juste de rentrer, nous n'avons pas fait grand-chose. Et que nous dit l'Église? Elle nous dit, en quelque sorte, elle nous fait dire ce que la Sainte Vierge a dit à notre Seigneur lors des noces de Cana, ils n'ont pas de vin. Cela fait tant d'années qu'ils sont dans votre Église, ça fait tant d'années qu'ils sont convertis, tant d'années qu'ils sont chrétiens, ils n'ont strictement rien fait, ou si peu. Délivrez-les, Seigneur, des liens dans lesquels le péché les a enserrés. Faire valoir ses mérites à Dieu, c'est commettre un vol. Nous savons que Dieu a commencé en nous cette bonne œuvre sans aucun mérite de notre part, et qu'il l'accomplira en nous rendant dignes des mérites de notre Seigneur Jésus, des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ par les mérites qui sont les siens. Tous nos mérites, et Dieu sait si nous devons mériter, tous nos mérites sont ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit ici d'une imputation réelle, et non pas, comme disent les protestants, d'une imputation fictive. Les protestants disent, nous sommes tellement mauvais, en cela ils ont raison, que Dieu ne peut que faire semblant de nous imputer les mérites de son Fils, de telle sorte que, en quelque sorte revêtu de cette sorte de vernis, il soit à lui-même, par bonté, sa propre dupe, et qu'il fasse semblant de nous voir justes alors que nous sommes si injustes. Il y a quelque chose de vrai dans le sens où nous sommes mauvais, il y a quelque chose encore de vrai dans le sens où nos mérites ne sont que les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a quelque chose d'épouvantablement faux dans le sens où, en quelque sorte, les protestants empêchent les chrétiens de devenir réellement participants de notre Seigneur Jésus-Christ, dont par ailleurs ils disent que nous sommes les membres, les chrétiens sont les membres de son corps, etc., bien sûr. Mais il y a quelque chose d'épouvantable dans le sens où, en quelque sorte, tout est artificiel. D'où la misère de cette erreur, de ce schisme, de cette hérésie. Il y a une imputation réelle, c'est-à-dire que les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ deviennent réellement les nôtres à mesure que nous devenons de plus en plus lui-même. Or, théoriquement, potentiellement, nous sommes devenus lui par le baptême. Alors vous allez dire, l'expérience me montre que je suis encore quand même passablement moi. C'est vrai, C'est une expérience que nous faisons tous les jours, malheureusement, et Saint Paul nous a bien enseigné à la dire, à reconnaître que, à la confesser, à reconnaître que nous trouvons en nous une volonté qui est combattue par une autre volonté, nous désirerions faire quelque chose et nous faisons exactement le contraire, nous aimons Dieu et il nous semble que nous le détestons. Eh bien, mes très chers frères, néanmoins, il se trouve que l'imputation des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ est une imputation réelle et non fictive. Ils sont les nôtres, de telle sorte que lorsque nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, à l'œuvre, pour son œuvre sur la croix, eh bien, nous désirons l'imiter, nous désirons vivre de sa vie. Et lorsque nous faisons cet effort, lorsque, mus par sa grâce, nous allons plus loin que nous-mêmes, et que nous vivons dans la gratitude pour ce qu'il a fait de nous, eh bien, sa grâce étant surabondante, le peu d'efforts que nous faisons est récompensé infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Quand je dis le peu d'efforts, ça ne veut pas dire qu'il suffit de faire peu d'efforts. C'est-à-dire que, alors que nous aurions envie de faire de gigantesques efforts, tout ce que nous arrivons à faire la plupart du temps, c'est de tout petits efforts. Eh bien, ces efforts-là ne sont pas vains. Donc, il y a une erreur, un piège du diable, une erreur dans laquelle les chrétiens tombent souvent, c'est de dire, puisque je ne peux pas avoir les actes d'un saint, donc du coup, je n'ai rien à faire. Non, je voudrais faire quelque chose pour Dieu, je n'y arrive pas parce que je suis trop engoncé dans le réseau d'erreurs et de péchés, plus précisément de péchés dans lesquels, qui me tient, retient prisonnier, en tout cas pour l'instant. Néanmoins, les efforts réels déjà que je fais ne sont pas vains. Et ces efforts, quelque petits qu'ils soient, sont des efforts qui sont récompensés par Dieu parce qu'ils procèdent de la grâce qui agit en moi, nonobstant l'immensité de mes péchés, nonobstant l'immensité de la structure des liens qui fait que eh bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est très faible, extrêmement faible, beaucoup trop faible. Même en ce 23e dimanche après la Pentecôte, elle est très faible. Et néanmoins, les efforts que nous faisons ne sont pas vains. Nous pouvons véritablement mériter la grâce de Dieu, parce que cette grâce, c'est le Christ qui nous l'a méritée, et nos mérites, ce sont ses mérites. Nous sommes faits pour Dieu. Voilà quelque chose qui est fondamental et qui définit la nature humaine. Nous sommes faits pour Dieu, et les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ sont les mérites de l'homme-Dieu. Ce ne sont pas les mérites d'un Dieu totalement étranger à nous, qui nous serait imputé, comme disent les protestants, d'une façon fictive ou d'une façon impossible en quelque sorte. C'est comme s'ils nous étaient crédités, mais que nous aurions été, mais qu'ils sont d'origine absolument étrangère à nous. Sous un certain rapport, ils sont d'origine étrangère à nous dans le sens où ils sont divins, mais en même temps, c'est l'homme Dieu qui les a accomplis. Et si le Christ nous impute ses mérites, eh bien, c'est parce que en tant qu'homme, il les a mérités, il les a gagnés pour nous. Il a fait le premier ce que nous devons faire. C'est pour cela que la tradition nous dit que nous devons simplement marcher sur ses traces, marcher dans ses pas, de telle sorte que ce qu'il a fait, nous le fassions, à notre niveau, selon notre état, etc., toute proportion gardée, mais ce qu'il a fait, nous le fassions, de telle sorte que ce qu'il a gagné devienne nôtre en lui, puisque nous ne pouvons agir, nous ne pouvons vivre qu'en lui, dans le Christ, in Christo. Donc l'Église, vous voyez, mes très chers frères, l'Église, pour apitoyer en quelque sorte Dieu sur notre sort, ne cherche pas à faire valoir les mérites que nous aurions pu acquérir par les moments où nous étions bien disposés, où nous avons tiré de notre bon fond toutes sortes de choses. Elle lui rappelle que nous ne sommes que poussière, que nous sommes prisonniers de notre humaine fragilité et que nous sommes engoncés dans des liens du péché. Et elle nous dit, et elle lui fait dire, délivrez-nous par votre bonté, des liens du péché que nous avons commis par humaine fragilité. Où sont nos mérites que nous puissions faire valoir à Dieu? Nous n'en avons aucun. Et loin de trembler en nous disant « mais finalement je n'ai rien à présenter à Dieu », présentons-nous tels que nous sommes, et sachons que dans la mesure où nous ne sommes pas orgueilleux de nous-mêmes, alors véritablement, quelle que soit l'immensité de nos péchés, Dieu n'est pas repoussé par eux. Il n'est repoussé que par l'orgueil. Paradoxalement, Dieu déteste les orgueilleux, mais le pire des pécheurs ne lui fait pas tellement horreur qu'il est capable de lui pardonner. Voilà quelque chose de très important pour nous et de très encourageant, spécialement, je vous le rappelle, dans ce 23e dimanche après la Pentecôte, où il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'année. L'Église intercède donc pour nous, mes très chers frères, en mettant en avant notre impuissance au bien. Ensuite, l'Église passe en quelque sorte de la troisième personne du singulier à la première personne du pluriel. Écoutez bien, parce qu'il faut noter, ce n'est pas pour rien, l'Église n'est pas quelqu'un qui n'est pas une entité qui manie la grammaire plus ou moins comme ça, ou qui parle d'une façon trop orale. Tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est forgé par la liturgie, qui vient d'un temps immémorial et qui vient de Saint-Esprit lui-même, a un sens. Pardonnez, Seigneur, les fautes de vos peuples. Point virgule. Délivrez-nous par votre bonté des liens du péché. L'Église parle dans la première phrase, et dans la deuxième partie de l'oraison, elle parle tellement intimement à Dieu qu'elle parle au nom de ses enfants. L'Église est sainte, pure, sans tache, immaculée. Elle n'est pas liée par les liens emprisonnée par des liens des péchés que nous avons commis qu'elle a commis par humaine fragilité. Et pourtant, elle qui est notre mère, elle nous apprend à prier en utilisant nos propres paroles. Elle prie véritablement comme le Christ prie. Lorsque le Christ prie à son Père, il lui dit « délivrez-moi ». Mais en réalité, il n'a pas besoin d'être délivré. Mais pourquoi dit-il « délivrez-moi » Parce que nous avons besoin d'être délivrés et que nous sommes son corps. Nous sommes ses membres. L'Église nous fait donc parle donc en notre nom. Elle nous dit, elle parle à Dieu de ses peuples dont nous faisons partie, et elle lui dit « délivrez-nous par votre bonté ». Ceux qui prient pour les autres, mes très chers frères, doivent s'identifier à eux. Lorsque nous intercédons pour nos frères, nous devons intercéder comme si nous prions pour notre propre intérêt. Si nous prions pour les autres, pour nos frères ou pour d'autres, pour des païens, pour ceux dont le devoir est de se convertir, eh bien, si nous intercédons pour eux avec une nuance de mépris, avec une nuance de supériorité, avec une nuance d'orgueil dans notre cœur, Dieu ne nous écoutera pas, parce que nous ne prions pas comme l'Église. Et nous ne prions pas comme l'Église nous enseigne à prier. Délivrez-nous par votre bonté. Lorsque nous voyons un frère qui a besoin de nos prières, et que, par exemple, qui est, je ne sais pas moi, qui est, par exemple, je ne sais pas, alcoolique, par exemple, nous devons dire au Seigneur, « Seigneur, délivrez-nous de cette addiction, délivrez-nous de ce péché récurrent. » Vous allez dire, « Mais moi, par la grâce de Dieu, je ne suis pas alcoolique. » Oui, mais vous êtes membre de votre frère. Vous êtes membre du même corps. Nous sommes membres les uns des autres. Donc nous devons nous identifier autant que cela est possible, les uns aux autres, spécialement les frères. Après, évidemment, pour les païens, nous devons aussi nous identifier à eux, à un deuxième degré, c'est-à-dire nous devons leur dire, nous devons dire à Dieu, « Seigneur, vous qui voyez que nous sommes incapables de vous, par nous-mêmes de vous plaire, venez à notre secours. » Vous allez dire, c'est une étrange façon de prier. C'est peut-être, mes très chers frères, que vous ne savez pas prier aussi. L'Église dit encore nous enseigne encore quelque chose dans cette oraison, c'est que elle avoue les liens du péché qui nous enserrent et qui viennent de la faiblesse humaine. Que fait-elle à Dieu? Elle fait la chose que les orgueilleux, nous l'avons déjà dit, que les orgueilleux pensent être la dernière qui devrait être faite, stratégiquement parlant. L'Église fait le tableau pitoyable de l'homme à Dieu. Arrivée aux confins de la fin du monde, que fait-elle? Au lieu de parler d'un homme déjà largement divinisé, largement... Non, elle dit, Regardez, Seigneur, vos enfants sont enserrés par les liens du péché qu'ils ont commis par leur humaine fragilité. Alors vous allez dire, c'est justement le contraire de ce qu'il faut faire, il faut se présenter sous son meilleur jour. Non, mes très chers frères, à chaque instant, si nous voulons recevoir la grâce et la miséricorde divine, nous devons accepter de lui faire de nous-mêmes le tableau le plus objectif possible. Nous ne devons pas nous dire « qu'est-ce que je pourrais dire au bon Dieu qui pourrait lui plaire ?» De toute façon, ce qui lui plaît en nous, c'est ce qui vient de son Fils. C'est dans la mesure où nous sommes unis à son Fils. Tout ce qu'il y a en nous, de natif, déplaît à Dieu. Et au lieu d'essayer de le cacher à Dieu qui voit tout, il faut lui en faire le tableau pitoyable. Un petit peu comme ces mendiants qui, en quelque sorte, se complaisent, alors l'image va choquer, mais qui se complaisent à montrer leur mutilation, leur goitre, leur moignon, leur pustule, etc. Pourquoi font-ils ça? Pour apitoyer. Vous voyez, ils sont dégoûtants. Regardez-vous dans le miroir de l'Écriture, vous verrez que chacun de nous sommes absolument dégoûtants. Lorsque nous nous considérons, pour ce que nous sommes en dehors du Christ, mes très chers frères, nous sommes absolument dégoûtants. Et pour apitoyer Dieu, Il ne faut surtout pas essayer de montrer que nous valons quelque chose. Il faut lui dire, Seigneur, je reconnais que je ne vaux rien. Si vous voyez un mendiant qui vient avec une chaîne d'or, avec des beaux vêtements, avec des chaussures fraîchement cirées, et qui vous tend la main et qui vous dit une petite pièce s'il vous plaît, vous allez dire, ben, il me semble que vous n'en avez pas besoin. Tandis que si vous voyez un misérable qui se traîne et qui est horrible, mais ne serait-ce que pour être débarrassé de lui, vous allez lui donner une pièce, un billet, que sais-je, quelque chose, en lui disant, voilà, tenez, vous me faites tellement horreur que je vous donne tout ce que j'ai. Il en va de même pour Dieu, toute proportion gardée, évidemment. Il faut lui faire le tableau pitoyable de ce que nous sommes, mes très chers frères, afin qu'il ait vraiment pitié de nous. Mais aussi, il faut que nous détestions ce que nous sommes. Il y a donc ici une grande erreur quand on prie pour, par exemple, on prie pour notre pays, et qu'on est très fier d'être français. Alors, je ne dis pas qu'il faut être honteux d'être français, ce n'est pas du tout ça la question. Et qu'on est très fier d'avoir été un grand royaume, que nos rois aient été les fils aînés de l'Église. Il faut que nous sommes fiers de pouvoir rappeler à Dieu le baptême de Clovis. C'est une chose effectivement très grande, très magnifique. Nous avons été un royaume particulièrement glorieux. Mais parvenu à la fin du monde, à quoi sert-il de rappeler tout ceci à Dieu, d'autant plus que tout ceci était l'œuvre de Dieu. Et si l'on en croit le contrat que Dieu, l'alliance que Dieu a passée par l'intermédiaire de Saint-Rémy avec nos premiers rois, donc avec toutes les trois races de nos rois, eh bien, tout était conditionnel. Et la révolution est moins un détour de Dieu qu'un châtiment. C'est un détour de Dieu, bien sûr, mais il se trouve que c'est surtout un châtiment. Vous voyez, un châtiment pour l'infidélité et le manque de protection que nos rois, justement, ont accordé à la doctrine, à l'orthodoxie. Donc, vous voyez, mes très chers frères, parvenus à la fin du monde, lorsque nous prions pour nous-mêmes ou lorsque nous prions pour notre pays, ce qu'il faut faire, pour le royaume de France, eh bien, nous devons avoir, eh bien, une attitude d'humilité et un constat de néant. Seigneur, vous savez ce que nous étions, nous avons été par votre grâce, nous ne le sommes plus du tout, Seigneur, ayez pitié de nous. Lorsque Daniel, le prophète Daniel, a intercédé pour son peuple, ou lorsque Néhémias a intercédé pour son peuple, il n'a pas dit, regardez ce que nous avons fait pour vous, nos rois avaient construit un magnifique temple, etc. Non, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons péché, nous et nos pères. Alors, quelle est l'attitude, après avoir vu un peu cette doctrine, quelle est l'attitude que nous devons avoir pour nous présenter concrètement devant Dieu? Nous pourrions nous arrêter là, mais allons plus loin, parce que c'est presque spolier le peuple chrétien que de ne pas quand même pressurer un petit peu, les textes des messes pour en faire sortir le suc. Dans l'Épître, c'est notre deuxième point, dans l'Évangile, pardon, nous voyons ce récit de ce double miracle. Alors, nous ne parlons pas du double miracle, nous parlons simplement du miracle de la guérison de cette femme qui souffrait depuis 12 ans. En chemin pour ressusciter la fille de Jaïr, notre Seigneur Jésus-Christ guérit une femme. C'est l'image, nous disent les commentateurs, c'est la maladie de cette femme, c'est l'image de la concupiscence que rien n'arrête. C'est une blessure permanente de la nature corrompue. Elle était blessée et elle perdait sa substance vitale de telle sorte que c'est une image, un petit peu comme les autres maladies sont aussi l'image d'autres aspects de la nature corrompue. Depuis que notre premier père Adam a péché, il ne cesse il a beau avoir recours à tous les médecins, à toutes les religions, à tous les philosophes, etc., il n'arrive pas à mettre un terme à son mal. Aucun médecin n'avait pu la guérir, nous dit un autre évangile parallèle. C'est la sagesse du monde. La sagesse du monde peut bien soulager quelque peu l'homme blessé par le péché originel, même mis à mort par le péché originel, mais il se trouve que la sagesse du monde n'est capable que de donner des petites compensations pour le monde. La prière de l'Église, mes très chers frères, est illustrée par l'attitude de cette femme. Dans cette attitude, nous découvrons plusieurs choses. Tout d'abord, nous voyons l'humilité. Une humilité, nous disent les auteurs, une humilité de confusion. C'est-à-dire qu'elle avait honte de son mal, elle ne pouvait pas en parler, vraiment, forcément, devant tout le monde. Elle n'avait pas envie que notre Seigneur lui demande publiquement, comme aux autres, ce qu'elle voulait qu'il fasse. Elle avait une honte de son mal. Et les auteurs nous disent que c'est une illustration, une image de la honte que le pénitent doit avoir de ses péchés. Il ne doit pas aimer en parler, il ne doit pas aimer en faire état. Vous voyez, nous disons ça souvent parce que malheureusement dans le christianisme moderne, et même, je ne dis pas moderniste forcément, mais enfin dans le christianisme, dans la mentalité des chrétiens, avec plusieurs guillemets, modernes, on a toujours l'impression que plus on fait étalage de ses péchés, c'est une bonne chose. Alors, certains sont amenés à parler de leurs péchés, comme saint Paul, comme saint Augustin, pour être une édification aux autres. Mais si vous n'êtes pas saint Paul, si vous n'êtes pas saint Augustin, ne parlez pas de vos péchés. Ayez en honte, ayez une honte profonde de votre mal. Ne désirez pas vous donner en spectacle en racontant votre histoire à tout bout de champ. La plaie du péché originel est absolument hideuse et nous devons en avoir honte. Si nous avions, mes très chers frères, une idée claire des effets du péché originel en nous, eh bien, nous détesterions encore plus non seulement le péché originel, mais tout ce qui a trait au péché originel, tout ce qui est des conséquences du péché originel. Nous en aurions une horreur teintée de honte et de confusion. Bien souvent, malheureusement, nous voyons en nous des effets du péché originel, et en les déguisant un petit peu, en les détournant un tout petit peu, nous les faisons servir à notre vanité. Vous voyez, nous sommes, je ne sais pas moi, nous sommes vaniteux, c'est un effet du péché originel, et nous transformons cela en assurance chrétienne, nous pavanons, nous disons que nous sommes fiers d'être chrétiens. Alors, évidemment, il ne faut pas avoir honte d'être chrétien, c'est vrai, mais il y a une façon de combattre le respect humain qui est en fait une sorte de soumission au respect humain. Si nous sommes des chrétiens extravagants, et que nous sommes constamment en train de, en quelque sorte, faire état de notre christianisme d'une façon extravagante, c'est une forme de respect humain. C'est-à-dire que nous n'osons pas être des chrétiens normaux. Nous sommes des extravagants, nous sommes des gens qui se donnent en spectacle, qui mettent leur christianisme en spectacle. C'est le carême, nous allons dire à tout notre bureau, toute notre équipe, que sais-je, « Ah non, voilà, je suis chrétien, voyez-vous, et c'est une grande gloire pour les chrétiens de pas manger, de pas de jeûner, que sais-je. » Non, ce n'est pas cela que notre Seigneur, que l'Église nous enseigne. Vous voyez, nous avons honte, nous sommes blessés par le péché originel, nous avons honte du christianisme, nous sommes blessés par le péché originel, et nous déguisons tout ceci pour mieux faire passer notre maladie, éventuellement, et même la transformer en une force. Mes très chers frères, nous devons avoir, comme cette femme, une humilité de confusion. Nous devons avoir honte et horreur de la plaie hideuse qui nous rend malade. Et c'est pour cela que nous devons la détester. Ensuite, que nous enseigne encore cette femme? Elle nous enseigne par le fait qu'elle s'est approchée de notre Seigneur par derrière. Et elle se disait, elle s'approcha par derrière et toucha le frange de son vêtement, se disant en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle avait tellement honte d'elle-même qu'elle n'osait pas confronter notre Seigneur, l'approcher de devant et lui demander humblement de la guérir. Elle se disait, si je touche simplement la frange de son vêtement, je serai guérie. Une autre femme s'est aussi approchée par derrière notre Seigneur, avec la même confusion, la même honte pour son mal profond. C'était sainte Marie-Madeleine, qui, lorsque notre Seigneur était allongé pour manger, comme on faisait autrefois dans l'Antiquité, eh bien, elle est venue, elle s'est approchée de ses pieds, qu'elle a lavé de ses larmes, embaumée, parfumée de ce parfum, de ce nard très précieux, et qu'elle a essuyé de ses cheveux. C'est une attitude qui est une attitude extrêmement utile pour nous pécheurs. Elle manifeste le mépris de soi-même. Il y a des pécheurs qui ont besoin d'aller vers Dieu, en face, si l'on peut dire, et de demander au Christ de les pardonner. C'est les lépreux qui s'approchent de lui, en criant de loin, « Bon maître, maître, Seigneur Jésus, guérissez-nous. » Et puis, sous un autre rapport, l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs, eh bien, il se trouve qu'il y a des pécheurs qui ont besoin de pratiquer un profond mépris de soi-même, et donc de s'approcher de Dieu d'une façon qui illustre leur désir que Dieu détourne sa face de leur faute. Il y a une façon, mes très chers frères, de s'approcher de notre Seigneur, qui est une façon, en quelque sorte, une des dernières façons qui nous soit donnée, puisque c'est le 23e dimanche après la Pentecôte, il ne reste plus beaucoup de temps, donc comment faire? Il faut lui dire, Seigneur, détournez votre face de mes péchés. Mais je suis tout entier péché. Je suis tout entier pécheur. Il faut donc dire à Dieu, Seigneur Dieu, détournez votre face de mes fautes, ce qui se manifeste par un mépris de soi-même, où nous disons, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de notre Seigneur. Mais nous savons qu'il lui suffit d'une seule parole pour ressusciter notre âme d'une façon souveraine et toute-puissante. L'homme, le pécheur, le chrétien du 23e dimanche après la Pentecôte, de la 11e heure, doit demander au Seigneur qu'il détourne sa face de ses fautes. Et pour que le Seigneur détourne sa face de nos fautes, parce qu'il le veut véritablement, nous devons avoir horreur non seulement de nos fautes, mais de nous-mêmes. Alors, quelqu'un dira, est-ce que ce n'est pas un petit peu pratiquer une humilité un peu trop maladive. Après tout, nous sommes ce que nous sommes et ce n'est que par faiblesse humaine. Nous sommes tout entiers faiblesse humaine. Et cette faiblesse humaine n'est pas l'œuvre de notre, c'est pas l'œuvre du Seigneur Dieu au paradis lorsqu'il a créé Adam. C'est l'œuvre du démon qui a en quelque sorte défiguré l'homme parce que l'homme l'a bien voulu. Il a bien voulu écouter le démon. Donc c'est notre faute. En Adam, nous avons péché. Et que personne ne dise, ah, mais si j'avais été à la place de notre premier père, j'aurais agi différemment. Si un de ses enfants avait dû agir différemment, un de ses enfants, selon la ligne droite, pas la Sainte Vierge ou notre Seigneur, mais si un de ses enfants, par ses propres forces, avait pu être capable d'agir différemment de la façon dont il a agi dans le paradis terrestre, notre Père aurait agi différemment. Il a agi comme nous aurions tous agi. Donc ayons honte de ce que nous avons fait dans le paradis terrestre, pratiquons le mépris de nous-mêmes, mes très chers frères, et demandons à Dieu qu'il détourne sa face de nos fautes. Identifions-nous à nos fautes, c'est la meilleure façon, eh bien justement, paradoxalement, d'éviter le désespoir. En quoi consiste le désespoir? Il consiste à dire « Dieu ne peut plus rien pour moi ». Mais lorsque nous disons « Dieu ne peut plus rien pour moi », nous sommes paradoxalement extrêmement orgueilleux, puisque nous sommes plus forts que Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire un bras de fer avec, notre nature, disons, est en train de faire un bras de fer avec Dieu, et nous savons que Dieu ne peut pas gagner. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire pourtant, je le dis parce que je suis très conscient de ma misère et de mon péché et de ce que j'ai fait. Si vous pensez que vous êtes, grâce à vos péchés, je dis bien grâce et pas à cause, plus fort que Dieu, vous êtes dans l'orgueil, certes c'est du désespoir, mais le désespoir n'est qu'une forme d'orgueil. Alors quelle est la bonne attitude? L'attitude consiste à dire « Dieu peut tout pour moi par le moyen le plus infime ». Ne soyons pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut que je le répète, de telle sorte que vous vous en souveniez, n'ayons pas cette attitude de Naaman le Syrien qui était lépreux. Vous voyez, c'était un grand capitaine de l'armée de Syrie. Il a été envoyé par son roi pour être guéri par le prophète Élisée. Il est venu et Élisée lui a fait dire, il n'est pas sorti de sa maison, il lui a fait dire par son serviteur, Giézi donc, par son serviteur, donc un simple serviteur, il lui a dit, si tu veux être guéri, Dieu te dit, va te laver dans le Jourdain. Et nous voyons Naaman partir relativement furieux, en tout cas très outragé, parce que c'était un grand capitaine, et nonobstant sa lèpre, c'était un valeureux guerrier, et il a dit, j'aurais quand même cru, parce que quand même je ne suis pas n'importe qui, j'aurais quand même cru que le prophète serait venu, qu'il aurait fait quelques invocations du nom de son Dieu sur moi, qu'il m'aurait guéri, c'est quand même plus digne de moi. Ne soyons pas comme Naaman dans la première phase, soyons comme Naaman dans la deuxième phase, quand il s'est parfaitement converti, qu'il a obéi à Dieu avec humilité. Ne soyons pas Naaman comme dans la première phase, où nous disons, je veux bien que Dieu guérisse le lépreux que je suis, car hélas, l'objectivité me contraint de reconnaître que je suis lépreux, que je suis pécheur, mais enfin d'une manière qui soit digne de moi. Non. Ayons l'humilité, la détestation de soi-même, de cette femme qui dit, je ne vais même pas m'adresser à Dieu, au Christ, je vais simplement toucher, non pas son vêtement, mais la frange de son vêtement. La frange du vêtement, c'est vraiment, après la frange, il n'y a plus rien du vêtement. Il y a l'homme qui est revêtu du vêtement, et il y a le vêtement qui est orné de franges. La frange, c'est vraiment la plus petite partie du vêtement. Donc, vous voyez, mes très chers frères, le mépris de soi-même doit s'accompagner d'une grande foi. C'est ainsi que nous triomphons du désespoir. Le mépris de soi-même accompagné d'une grande foi. Il ne faut pas se croire digne des choses saintes. Et ne pas se croire digne des choses saintes, c'est le devenir, c'est devenir digne des choses saintes. Voyez-vous, mes très chers frères, aujourd'hui, pour diverses raisons, et malheureusement ça date pas d'hier, mais on a l'impression que plus on est pécheur, plus il faut communier, hop, j'ai péché, donc je me précipite au confessionnal, et à peine l'absolution descendue sur moi, je me précipite pour communier, afin de renforcer ma foi. Oh non, attendez, qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? Ce n'est pas la manière traditionnelle, ce n'est pas la manière apostolique, ce n'est pas la manière de nos pères. Que faut-il faire? Il faut dire, j'ai tellement péché que je ne suis pas digne de communier. Vous allez dire, oui, mais alors, ça veut dire que je ne communierai jamais. Attendez, tout le monde dit avant de communier, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites une parole et mon âme sera guérie. Vous allez dire, oui, mais c'est la liturgie. Alors quoi, la liturgie nous fait dire des livres, nous fait dire des paroles qui ne correspondent pas à notre réalité. Seul peut communier celui qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Si nous nous imaginons que la communion, c'est une sorte de booster de foi, que sais-je, si vous me permettez l'expression, nous nous trompons complètement. La communion n'est autre que la participation au corps sacramentel de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne de communier. J'ai tellement péché par le passé, je suis tellement lié par les liens des péchés, de mes péchés qui viennent de ma faiblesse naturelle, que je ne suis pas digne. Il faut quand même beaucoup de foi pour le dire. Parce que bien souvent, il nous semble que si nous ne communions pas, eh bien, d'une certaine manière, nous sommes des chrétiens minables et que tout le monde va s'en rendre compte et que même à nos yeux, nous sommes dans un état anormal. Alors, nous sommes dans un état anormal, c'est vrai, mais un état malheureusement très normal, malheureusement, pour lui mettre faiblesse. Ne pas se croire digne des choses saintes, c'est être dans la voie très sûre pour le devenir. Et lorsque notre confesseur nous aura véritablement, nous ayant ausculté, guidé, etc., nous verra enfin capable de communier, nous dirons une dernière fois, avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. » Et nous communierons. Vous voyez, même lorsque nous serons devenus dignes, nous confesserons toujours notre indignité. Alors, quand nous ne sommes pas vraiment dignes, confessons encore plus notre indignité. Il ne faut pas, il faut comme faire comme cette femme, toucher la frange de notre Seigneur, du vêtement de notre Seigneur. Il ne faut pas regarder aux moyens que l'on emploie pour nous guérir. La pénitence, les délais d'absolution, les œuvres qu'on nous demande, que notre confesseur nous demande de faire, les mises à l'épreuve. On se dit, oui, tout ceci, ce sont des hommes qui nous le font. Et, d'une certaine manière, nous ne méritons pas, à cause de la hideur de notre péché, nous ne méritons pas de nous adresser directement à notre Seigneur et d'avoir un oracle qui tombe directement de sa bouche. Nous sommes condamnés, en quelque sorte, et c'est ça qui est notre grande assurance, à devoir recourir à la frange de son vêtement. Et vous vous souvenez ce que dira notre Seigneur dans un autre évangile, qui est l'évangile parallèle, il dit « J'ai senti qu'une force sortait de moi pour guérir. » Et cette femme n'avait touché que la frange du vêtement de notre Seigneur. La frange du vêtement de notre Seigneur, c'est exactement la même chose que notre Seigneur tout entier. La seule chose, c'est sur cette frange que doit s'exercer notre humilité, notre mépris de soi et notre grande foi. Si nous sommes des très grands pécheurs et que nous disons « je vais m'adresser à Dieu directement à notre Seigneur », enfin, on ne le dit jamais comme ça, mais de telle sorte que lui-même me guérisse. Non, il faut dire « je suis tellement indigne de m'adresser à lui que je vais me contenter de toucher la frange de son vêtement ». Et en réalité, la frange de son vêtement, c'est lui-même. Il y aurait bien des choses à dire, mais avançons. Exerçons notre foi, mes très chers frères, sur le Christ qui seul guérit. Il guérit par tous les moyens qu'il a donnés à son Église pour nous guérir. Ne méprisons pas ces moyens et nous serons vraiment, vraiment guéris. Plus nous nous considérons indignes d'approcher le Christ, plus nous l'approchons avec révérence. Plus nous confessons notre indignité, plus nous devenons dignes. Et enfin, terminons, mes très chers frères, en voyant les larmes de saint Paul. Nous avons dit que l'Église, après avoir parlé à Dieu de ses peuples, dit « délivrez-nous ». Et saint Paul, parlant de ceux qui se comportaient mal dans l'Église, ne parlait d'eux qu'en pleurant. Il dit, et dont je, que dit-il? « Il y en a beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont maintenant encore je vous parle en pleurant, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils ne cherchent qu'à détruire. Ils font leur Dieu de leur ventre, mettant leur gloire dans ce qui devrait les couvrir de honte, et ils n'ont de goût que pour les choses de la terre. S'il faut parler de ces choses, de ces gens-là, il faut parler d'eux en pleurant. Notre attitude, il faut parler de nous-mêmes en pleurant. Notre attitude, mes très chers frères, est digne d'être pleurée. Eh bien, les dernières semaines de l'année doivent être consacrées aux pleurs sur nos péchés. Vous allez dire, c'est étonnant, est-ce que ce n'est pas une façon de parler? Ben, si c'est une façon de parler, alors il y a bien des gens dans l'Église, et jusqu'à une date récente, qui se sont trompés et qui ont véritablement versé des larmes sur leurs péchés, les péchés des autres, alors que ce n'était qu'une façon de parler. Mais quand bien même ça serait une façon de parler, parce que c'est vrai que les larmes physiques ne sont pas forcément toujours nécessaires pour pleurer véritablement ses péchés, quand bien même ça ne serait qu'une façon de parler, pleurez-vous vos péchés d'une façon spirituelle, donc d'une façon substantielle, réelle. Vous voyez, nous méprisons les pleurs en nous disant « ça va me faire passer pour quelqu'un de bizarre », et nous ne pleurons pas nos péchés. Bienheureux ceux qui pleurent, dit notre Seigneur, car ils seront consolés. Si nous ne pleurons pas nos péchés, nous ne serons pas consolés d'avoir péché. Ils se conduisent, ceux qui ne pleurent pas et sur lesquels nous devons pleurer, ils se conduisent en ennemis de la croix du Christ. On veut bâtir et l'on détruit. Il y a donc, mes très chers frères, à notre époque, depuis longtemps déjà, une démultiplication des bonnes idées. Nous en parlons souvent, des bonnes idées entre guillemets. Eh bien, mes très chers frères, tout ceci n'est que les prodromes de l'Antéchrist. On essaye de booster les chrétiens, si j'ose dire, et eh bien, tout ce qu'on arrive à faire, c'est à les jeter dans la confusion. Et pas la confusion salutaire, la confusion d'esprit. Pour nous, dit saint Paul, pour nous, nous vivons au contraire dans le ciel dont nous sommes les citoyens. Et d'où nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation, lui-même qui est constamment en train de nous faire commettre des péchés, de fragilité, et notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux. Pleurer ses péchés, mes très chers frères, vivre dans le ciel, pardon, mes très chers frères, c'est réaliser ici-bas la volonté de Dieu. Vivre ici-bas en se consacrant à sa sanctification par les moyens que nous donne notre État, c'est véritablement manifester que nous sommes citoyens des cieux. Pleurer nos péchés, c'est devenir capable de ne plus les commettre. Parce que celui qui pleure véritablement ses péchés a du mal, si Dieu l'aide, à recommencer. On peut pleurer ses péchés et recommencer, bien entendu. Mais il se trouve que si véritablement nous avons l'habitus de déplorer nos péchés, lorsque l'occasion nous sera donnée de les recommencer, nous nous dirons « Mais non, c'est déplorable !» Vous voyez, c'est par manque de pleurer nos péchés, par défaut de pleurer nos péchés, que nous retombons dedans. Mais si nous sommes habitués à les déplorer, à les haïr, à avoir honte d'eux, avec l'aide de la grâce de Dieu, lorsqu'ils se représenteront, lorsque l'occasion se représentera, eh bien nous hésiterons avec l'aide de Dieu. L'esprit de pénitence, c'est avant tout l'esprit d'ordonnation. Or Dieu n'opère que par ce qui est en ordre. C'est pour cela qu'il est écrit « Du ciel d'où nous attendons le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. » Attendre, cette attente, mes très chers frères, passive en apparence, est en réalité la vie chrétienne vécue dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est méconnue et inconnue de ceux qui, confiant en leur mérite, s'imaginent être utiles à Dieu. Bienheureux qui peut comprendre, mes très chers frères, bienheureux qui peut comprendre que l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, n'est autre que l'ordonnation de la vie et la pratique d'une vie à tout niveau, qui se caractérise négativement par le fait de pleurer ses péchés et d'en avoir eu très honte, et positivement par le fait de devenir, par la grâce de Dieu, de plus en plus digne des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, mes très chers frères, parlons ainsi à Dieu. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez mon appel, et nous savons qu'il nous exaucera, même nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.